Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur la Radio Mondiale et pour notre deuxième jour de retour, bien sûr, hein, retour de vacances et surtout reprise des championnats, notamment en Angleterre avec des Citizens déjà très en forme. Vont-ils remporter une cinquième couronne de champion? Les hommes de Pep Guardiola sont-ils encore intouchables? Ou bien les Gunners vont-ils conclure deux belles saisons et aboutir quand même sur la première marche? Manchester United revient dans le game, mais reviendront-ils dans le Big Four? Question qu'on se posera. De même, ce Chelsea sous pavillon américain, si mystérieux, va-t-il enfin trouver un certain équilibre? Bref, beaucoup d'informations autour du championnat anglais ou aussi des modifications autour de l'arbitrage et des arbitres mériteront quelques commentaires, n'est-ce pas? Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Oui, très heureux. Beaucoup de changements et je pense qu'il y en aura aussi en tête de la Première Ligue à la fin de la saison.
Eh ben, on est très content de vous retrouver, en tout cas pour cette nouvelle saison anglaise et que vous nous faites vivre. Il y a aussi un autre club qui nous intéresse, c'est le Paris Saint-Germain. Bonjour Dominique.
Bonjour Annie.
Dominique Sévrac, notre ami du Paris Saint-Germain.
Oui.
Vous êtes notre ami et vous êtes ami du Paris Saint-Germain, c'est un peu...
Oui, la réciproque n'est pas toujours vraie.
Oui, certes, pour nous non plus
un
d'ailleurs.
Un peu tricard parfois. Hein.
En tout cas, on va en parler de ce Paris Saint-Germain et aussi avec vous. Bonjour Patrick Julia.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
À nos auditeurs qui ne voient pas tout. Il y a des jolies couleurs quand même dans ce studio.
Vous trouvez.
Hein, oui, oui.
On a le teint un peu abricot.
Je salue votre robe entre la risée, le drapeau à damier et un hommage à la Juventus.
N'est-ce pas?
J'aime
n'est-ce
beaucoup.
Pas. Mais les Juventus, on en parlera demain, Dominique. Vous étiez dans l'Est et dans l'Est, on a moins bronzé qu'ailleurs, vraisemblablement.
Y a pas
Bruno
beaucoup de,
Constant.
Depuis que je suis rentré en France, il n'y a pas beaucoup d'été quand même. Hein. J'étais en Sardaigne, mais la France, c'est compliqué. Hein.
C'est terrible.
Surtout en France, mais vous n'êtes pas dans le bon coin de la France, par contre.
En plus, le nord-est, oui, il y a un peu de
au-dessus du
40... Nice, on peut pas dire qu'il y en ait beaucoup à Paris non plus. Hein.
Sachez-le, au-dessus du 45e parallèle, ouais. C'est moins bien.
C'est la limite des palmiers.
Très voilà. Bon pour météo.
Exactement, et des oliviers aussi, je crois. En tout cas, le Paris Saint-Germain, nouvelle version orpheline de Kylian Mbappé, le club du Qatar. Va-t-il encore dominer la Ligue 1 comme il le fait depuis une douzaine d'années? Et quelles sont ses ambitions en Ligue des Champions? Évidemment, nous avons les réponses à ces interrogations. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer cette émission. Mathieu De Gelre est à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti.
C'est que ball. It's a great goal. The first goal of the season. Saka onto his left foot. Bukayo Saka at Emirates Stadium again. And didn't he take it well? Comes out for Tarou on the Leicester right. He's caught Vardy. Jamie Vardy again for Leicester City. Ageless, priceless, and timeless. Jamie Vardy, from the chance missed, raised the volume at King Power Stadium. And the final score inside King Power Stadium. Leicester City 1, Tottenham Hotspur 1. Goes through towards Haaland. First chance for Haaland. And he's taken it. Of course he's taken it. 100 appearances for City. And now 91 goals for Erling Haaland. Good run from Kovacic. Great run from Kovacic. Terrific goal. Mateo Kovacic. Well, he won't celebrate out of respect for his former employers. But that surely means the points for City. They lead 2-0.
Et voilà, le coup d'envoi, 20 clubs sur la ligne de départ de ce championnat d'Angleterre. Et à la fin, c'est Manchester City qui gagne, en débutant la saison déjà par un premier titre, le fameux Community Shield. Et puis en championnat, les Citizens qui règnent sur cette compétition. Hein. De leurs 10 titres, ils en ont remporté consécutivement 4, ces 4 dernières saisons. Ils en ont gagné 8 depuis 2012 et 6 sous l'ère Pep Guardiola. Sont-ils partis pour une Manita, on a glissé un petit mot d'espagnol quand même pour penser à la Liga qui veut les concurrencer, comme toujours. Eh bien, un record donc de 5 titres consécutifs, ce qui n'a pas été fait. Leur règne est-il sans partage, Bruno Constant?
Bah, c'est clairement le grand favori sur la ligne de départ. Après, il y a quand même un concurrent qui se dresse depuis 2 ans maintenant, c'est Arsenal. qui arrivent à les bousculer dans leur retranchement la saison
passée. Ils finissent toujours au pied du podium.
Ouais, mais chaque année, ils progressent un peu plus. Et s'ils progressent, ils progressent depuis 5 ans avec Arteta.
Ils marquent plus de points, notamment.
Et s'ils progressent encore cette année, ça veut dire qu'ils atteindraient les 90 points. Et quand on a 90 points en Première Ligue, c'est souvent synonyme de titre. Donc je pense qu'ils sont capables de le faire cette saison.
Est-ce que c'est God Save the King City
The King Pep.
The King Pep, The King Haaland, tout ce que vous voulez. Il n'y a que des kings là-bas, ils ont... Tant de couronnes.
Je vais dans le sens de ce qu'a dit Bruno. Ils sont les grands favoris.
Mais ce ils qui maintiennent est frappant, le niveau, c'est ça
ce qui est frappant, c'est que vraiment, je pense qu'on va encore avoir un mano à mano avec les Gunners. La saison dernière, 2 points, on finit par séparer les deux équipes au profit de City. Si on regarde le mercato, comment ces deux clubs se sont renforcés ? En fait, très peu. Il y a une recrue d'envergure dans chacune des deux équipes. C'est Calafiori en défense côté Gunners et Savinho, l'ailier brésilien, côté City. Mais globalement, les deux effectifs n'ont pas bougé. C'est une remarque qu'on peut étendre aussi à Liverpool, où l'effectif est, à part quelques joueurs secondaires qui ont
c'est
été lâchés sur le marché.
C'est le seul club en Europe avec Montpellier qui n'a pas de recrue, Liverpool.
Pareil, Arsenal, bon, ils ont lâché El Neni qui était en fin de contrat.
Après,
mais ce sont vraiment des évolutions.
C'est un marché qui est très lent.
Très atone, oui.
Avec les JO, avec l'Euro, etc. Oui. Qui, à mon avis, va se décanter dans les 7
les JO, pourquoi ça aurait empêché les clubs de recruter?
Il y avait des joueurs qui étaient impliqués, qui pouvaient revenir blessés. Il y a un retard sur le marché. Olise,
il avait signé avant, mais globalement, je trouve que ça se tient. Et dans le jeu, ça risque encore d'être très... Et je pense que ces deux clubs-là ont un cran au-dessus de tous les autres.
Ah oui, clairement.
Justement, voilà. Dominique, c'est les kings d'Angleterre actuellement, ces citizens. Mais est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le Paris Saint-Germain? C'est-à-dire, on domine et on assoit notre domination. Et même si c'est des fois 1 point, 2 points, on continue à être quand même les meilleurs.
C'est difficile de comparer parce qu'il y a quand même plus d'adversité dans le championnat anglais.
Regardez ces 6 dernières saisons, je crois qu'ils gagnent 4 titres.
Hein, ouais, ils ont eu de la concurrence et avec Liverpool et avec Arsenal.
Certes, mais on dirait que ça leur sert à être meilleurs plutôt qu'à perdre.
Oui. Après, Paris a été poussé dans ses retranchements par Lens, par exemple, une fois.
Lille aussi.
Mais Lille aussi, de
Monaco,
temps en temps. Mais c'est quand même plus difficile de remporter le championnat anglais. Et moi, je pense que cette stabilité va aider Manchester City. J'ai regardé le match à Chelsea. On a l'impression que c'était encore un match de la saison dernière. Rien n'a changé. Et puis...
Haaland a marqué,
voilà,
en plus.
Comme d'habitude, je pense que quand même les attaquants et le gardien de City sont plus forts que l'attaquant et le gardien d'Arsenal. Donc, je pense quand même que la domination est partie pour continuer.
En tout cas, écoutons Pep Guardiola, l'entraîneur depuis si longtemps de cette équipe. Il modère les avis et les ardeurs d'entrée de saison et avec presque un humour anglais.
La bonne nouvelle, je l'ai déjà dit et je le répète, ce sont les 3 premiers points. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste 70 matchs à jouer. C'est pourquoi la meilleure chose à faire est de rester calme, de se détendre et de profiter du moment présent, bien sûr.
Un petit tacle en passant à ces calendriers un peu fous. Mais c'est vrai que City fait évidemment partie des équipes qui jouent tous les tableaux, qui gagnent souvent sur tous les tableaux, ou en tout cas qui vont loin, ouais. Bruno. Et ça, est-ce que ce n'est pas le facteur X? On voit certaines équipes, on en parlera tout à l'heure, mais par exemple le Paris Saint-Germain qui perd déjà un joueur et il y en a d'autres qui ont perdu des joueurs d'entrée. Est-ce que ce n'est pas aussi... on se souvient que Haaland l'année dernière avait été blessé quand même assez longtemps et que ça avait gêné City.
De Bruyne aussi.
Ouais. Oui, encore plus.
La gestion de Guardiola, elle est souvent étonnante parce que c'est un des entraîneurs de très grands clubs européens qui a un effectif assez réduit. Il se repose sur 16, 17, 18 joueurs, mais
il fait
18 joueurs qui ont exactement quasiment le même niveau. Et il fait souvent 1 ou 2 ou 3 changements d'un match à l'autre pour justement durer le plus longtemps. Donc il a un effectif d'une qualité extraordinaire, même s'il y a encore des petits manquements. On parle du retour par exemple de Gundogan qui veut quitter Barcelone. Mais c'est une équipe qui chaque année devient à l'impression qu'elle est plus forte. Et je ne sais plus si c'était vous qui disiez ça sur le fait que les adversaires la rendent plus forte. C'est ça qui est impressionnant. C'est comme une bête qu'on nourrit et qui s'adapte aux autres et qui change, qui évolue d'une saison à l'autre et qui trouve toujours des solutions. On attendait la saison de la confirmation pour Haaland la saison passée. elle était un peu moyenne. Lui-même a reconnu qu'il n'était pas dans ses standards. Et je pense qu'il va être encore plus fort, lui, cette saison. Il s'est reposé durant cet été. Il n'a pas fait l'Euro.
C'est important.
Il est frais. Donc voilà, ça va être un plus énorme. Après, il y a des interrogations. De Bruyne, il a 33 ans. Il était un peu dans la difficulté la saison passée. Il a eu une blessure énorme. Il y a des joueurs qui n'ont pas toujours répondu aux attentes, comme Grealish, comme d'autres. Donc, il faudra suivre ça. Mais je pense que ça va être une haute lutte avec Arsenal cette saison.
Oui, vous pronostiquez ça. Le départ de Julian Alvarez, qui est quand même champion du monde, qui avait l'air d'avoir trouvé sa place dans cet effectif, mais qui n'était toujours utilisé pratiquement que comme remplaçant, est-ce que vous vous y attendiez ?
Ah non, pour moi, c'est une surprise. C'est une surprise parce que...
C'est quoi ? C'est le gang des Argentins, là, avec évidemment, Diego Simeone, qui l'a séduit vers l'Atlético.
C'est surtout que Guardiola...
C'est pas le même genre de jeu.
À chaque fois qu'un joueur lui a réclamé plus de temps de jeu, en disant « je suis pas content, je veux jouer plus », il a toujours cédé. Il y avait Gabriel Jesus qui était dans ce cas-là, il a vendu à Arsenal. C'était surprenant parce que c'était quand même la doublure d'Haaland, mais c'est aussi un joueur qui pouvait jouer avec Haaland en espèce de numéro 10 ou deuxième attaquant. Donc ça, ils ne l'ont pas. Ils en avaient un qui s'appelait Oscar Bob, qui devait avoir plus de temps de jeu cette saison. Il s'est blessé gravement, fracture de la jambe. Donc ils vont sans doute devoir recruter un joueur français.
Oui, parce que si on regarde l'effectif, il y a 26 joueurs, il y a un seul avant-centre, c'est Haaland. Imaginez qu'Haaland on ne lui souhaite pas, mais... Il y a une grave blessure, les ligaments croisés.
En tout cas, l'année dernière, il y a eu un
après, il n'y a pas de solution.
C'est l'entraîneur.
Guardiola sait faire
le seul,
ça.
C'est l'entraîneur en Europe évidemment, qui rêve de
même
jouer sans
avant-centre. Même pendant longtemps, il n'en a pas
mais,
eu.
Mais effectivement, je pense que l'espoir peut-être pour City, c'est que des joueurs qui ont été un peu coussi-coussa, voire décevants la saison dernière, puissent se relancer. Grealish, qui n'a pas fait l'Euro lui non plus, qui a peut-être rechargé ses batteries. Bon, on sait comment il fait pour les recharger, mais je pense que c'est nécessaire
c'est son
à son équilibre. Je pense qu'il peut faire une bonne saison. Et il y en a d'autres. Il y a ce Savinho qui, sur ce qu'on a vu au premier match, a l'air très intéressant. En tout cas, pour jouer les petits matchs, entre guillemets, en Première Ligue, à mon avis, il peut faire des grosses différences.
Il est sorti à la pause.
Et Foden, pareil, je pense qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait les derniers mois.
Qui a pris une nouvelle ampleur.
Et qui a fait un euro.
Avec sa fin d'euro, il a pris une nouvelle dimension.
Donc tout ça est assez prometteur, mais je pense effectivement qu'il devrait prendre un joker en attaque. Quand même.
Dominique, sur
Je suis très surpris qu'Alvarez soit parti.
C'était un peu la surprise de l'été. Là.
Pour le football caricatural, le panache du côté de City, le football restrictif de Diego Simeone de l'autre.
Peut-être ce que ça donnera envie à Simeone de changer un peu son style.
Oui, les attaquants, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Les Griezmann, les Morata, les Depay, Joao Félix, ça n'a pas forcément transformé son équipe en armada alléchante, en panachée, pleine d'enluminure. Donc, je suis un peu surpris.
Après, l'offre était alléchante.
Oui,
je pense que c'est le besoin de temps de jeu, l'envie de montrer que c'est un top
c'est le
player,
choix de,
ce qu'il pouvait faire
d'Alvarez.
Que par intermittence.
Oui, le choix du club.
Le choix du club qui me surprend que dis que Guardiola cède dès que quelqu'un réclame du temps de jeu, il est
surtout, surtout attirer un champion du monde quand même, parce qu'il l'avait fait venir très rapidement après la Coupe du Monde.
On pensait même que c'est lui qui allait succéder à Haaland, on pensait qu'Haaland serait juste une étape à City pour aller au Real. Et au final, Haaland se plaît bien à City.
Vous en parlerez demain, mais les stars sont un peu en Liga, quoi.
Ah oui,
les Alvarez, les Mbappé, les
Lamine Yamal.
Oui,
voilà. les stars offensives.
Oui.
Qui sont souvent les stars.
En tout cas, souvenons-nous quand même, l'année dernière, Manchester City a fait une saison 28 victoires sur 38 matchs. C'est quand même quelque chose de phénoménal.
C'est une machine, c'est clairement
c'est
une machine.
C'est ce qui est le plus dur de se maintenir au plus haut niveau.
Mais et c'est ce qu'ils arrivent à faire, effectivement, avec une certaine stabilité.
Je ne sais pas si Bruno sera d'accord, mais on sent quand même une forme de fin de règne, Guardiola ne va pas rester encore 10 ans. Quoi. Donc, c'est un peu la dernière année. Donc
pourquoi il se fatiguerait de gagner?
Parce que c'est difficile, en fait. C'est tellement difficile.
C'est usant. Klopp l'avait dit, Liverpool, il a été usé et éreinté.
Au bout de 9 ans.
Il y a aussi un autre facteur, c'est que cette saison, enfin, on va avoir le verdict des accusations portées contre le club de City, les 115 accusations.
Vous faites bien de dire enfin, parce qu'à chaque fois on se demande, mais.
Ouais, parce que c'est une enquête compliquée, on aura un premier verdict en janvier et qui sera ensuite sans doute en appel avec l'appel en fin de saison. Mais ça coïncide avec la fin de contrat de Guardiola. Moi, je pense qu'il y a, s'il y a sanction en premier verdict, même s'il y a appel, moi je pense que Guardiola profitera de l'occasion pour aller sous d'autres cieux.
En tout cas, qui pourrait les challenger? Alors, vous en avez tous parlé, c'est Arsenal, les Gunners du nord de Londres.
Bit by bit, day by day, we've been putting in the yards. Now, it's about to blow. Wait a minute, get it how you live it. Ten toes in when we standing on business. I'm a big stepper. North London moves as one. North London is built for this. North London is ready.
Hymne, Bruno Constant, vous vous sentez transporté dans l'Emirates?
Ah, moi, je trouve magnifique. Ouais. Je trouve qu'Arsenal, et encore une fois, c'est Arteta qui a mis ça en place. Il voulait absolument trouver un hymne pour motiver à la fois les joueurs, mais surtout les supporters avant le match. Et je trouve que c'est un hymne London Forever absolument magnifique, qui porte, qui a cette magie de porter un peu comme le You'll Never Walk Alone. Mm-hmm. Et je trouve que ça apporte vraiment une atmosphère particulière à l'Emirates, qui n'en avait pas avant, en fait. C'était un stade assez froid, les nouveaux stades. Mm-hmm. Et cette fois, il y a une vraie atmosphère, il y a une vraie vie dans ce stade et ça porte aussi l'équipe de Mikel Arteta.
Que raconte cet hymne des canonniers qu'ils sont bien installés sur nord de Londres.
C'est la fierté d'être au nord de Londres, alors que c'était quand même un club qui était au sud de Londres à la base. Hein. Mais bon.
Bah oui. Mais après.
Les temps changent.
Exactement. En tout cas, les Gunners, ils repartent au combat, hein, toujours avec Mikel Arteta. Alors tout à l'heure, on parlait de stabilité de l'effectif. On se retrouve à peu près dans la même configuration. Parce que si on regarde tout ça, les Havertz, Saka, qui ont marqué au premier match, Odegaard, Rice, Partey, Zinchenko, Saliba, tout le monde est là. Alors évidemment, on a peur pour eux, c'est de se jamais 203.
Oui.
Jamais deux fois au pied du podium, sans
trois.
Oui,
parce que c'est dur de battre City à son propre jeu. Il n'y a que le Liverpool de Jurgen Klopp qui l'a fait dans des proportions assez incroyables. Après, moi, je trouve que Arsenal amène vraiment l'adversité qu'avait apporté Liverpool. L'effectif ne bouge pas parce qu'il est très, très jeune et que tous toutes les jeunes stars sont prolongées régulièrement. Il va y avoir encore de l'activité sur le marché. Arteta a ouvert la porte. Il cherche éventuellement un attaquant ou un joueur de attaquant côté droit pour suppléer Bukayo Saka, pour le faire tourner un peu de temps en temps. Mais c'est surtout que les jeunes joueurs, ils sont plus forts d'une année sur l'autre. Mm-hmm. Et Saka va être plus fort, Odegaard va être plus fort, Martinelli va être plus fort. Mm-hmm. Havertz, on le critique, mais Havertz, il met un but fantastique d'avant-centre ce week-end. Et défensivement, c'est la meilleure défense d'Angleterre. Et ils se sont encore renforcés, parce que vous parliez de la seule recrue Calafiori. Mais il y a aussi Julian Tibber, qui avait signé l'été dernier, qui s'était gravement blessé, qui n'avait quasiment pas joué de la saison. Donc, et qui va être un renfort cette saison pour Arsenal.
Dominique, quelles sont pour vous les armes de cette équipe pour enfin damer le pion à City? Et je dirais, est-ce que c'est finalement plutôt psychologique?
Déjà, parce que Arteta qui est un super entraîneur, qui connaît...
plutôt bien Pep Guardiola, ouais, n'est-ce pas?
Qui est fait pour Arsenal, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours fait les bons choix récemment dans l'après-Wenger, notamment avec Unai Emery, qui n'est pas fait pour les grands clubs.
Mais ils lui ont donné du temps.
Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais entraîneur, ça veut juste dire qu'il n'est pas fait pour les grosses écuries. Et Arteta, lui, il a les épaules et la dimension. Après, Bruno vient de passer en revue quelques joueurs. Pour moi, c'est toujours le niveau inférieur des De Bruyne, des Bernardo Silva, des Haaland, des Rodri. J'arrive pas à trouver un joueur d'Arsenal que je mettrais à City. Donc c'est que c'est plus peut-être encore plus un collectif que
Arteta. Tu mettrais pas Saka, tu mettrais pas Declan Rice, peut-être. Oui.
Ah non, bah Saliba. On vient de dire que Foden était extraordinaire.
Et Saliba, je le mettrais moi. Mais après chacun ses goûts.
Oui,
Saliba,
ils sont un peu un croisement parce que les jeunes d'Arsenal prennent des années et les autres prennent des années aussi mais du mauvais côté.
Oui, mais par exemple Bernardo Silva qu'on voit dans le décor depuis longtemps, il a que 30 ans. C'est pas non plus un vieux joueur. Ouais. Bernardo Silva, il va donner encore les 3-4 belles années à City ou
mais
à Barcelone.
Je mettrais pas Tomiyasu à Manchester City.
Non, mais après il est pas titulaire.
Mais bon.
Donc oui, l'entraîneur et ce collectif qui progresse chaque année, donc c'est peut-être ça. Mais moi j'ai des doutes, contrairement à Bruno, sur Kai Havertz attaquant par exemple. Je sais pas, j'ai vu ça aussi avec l'Allemagne.
Je suis pas dingue.
Bah oui, on a déjà à Chelsea, hein, je me souviens, on avait quelques interrogations. Patrick, on parlait de l'entraîneur, on parlait aussi des progrès de l'effectif, mais finalement, il y a peut-être aussi ses supporters. On parlait de l'hymne, et c'est vrai que les supporters, les Gunners, on les a vus tellement derrière, par exemple, à un certain temps, Arsène Wenger. Et là, on a l'impression que ça peut aussi être un facteur.
Non, ça, non. Franchement, j'y crois pas tellement. Je trouve que ce sont deux clubs...
Parce qu'ils sont fidèles, hein, à Arsenal.
Oui, ils sont fidèles, évidemment, mais c'est pas des clubs populaires où le public va pouvoir transcender l'équipe s'il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. C'est deux équipes qui comptent sur leur qualité technico-tactique et pas sur le public, hein, pour moi. Mmh. Après, le problème peut-être d'Arsenal et la limite par rapport à City, si on doit comparer, les deux ont des effectifs stables, les deux ont des coachs qui maîtrisent très bien le schéma tactique, qui ont des intentions claires et un projet bien compris par les joueurs. La petite limite pour Arsenal, c'est que Arteta, il reste vraiment fidèle à ses principes. Quand Guardiola, avec Haaland, a un peu pensé contre lui-même et s'est dit, je vais quand même prendre un avant-centre physique, un grand costaud.
Il avait déjà gagné 4 ou 5 titres hein, avant qu'Haaland arrive.
Oui, oui, il a fait pour la Ligue des Champions surtout.
Je trouve que Haaland lui apporte des choses qu'il n'avait pas avant.
Ça, c'est sûr.
Et je pense qu'Arsenal, il manque peut-être à Arteta un joueur qui est un peu à l'opposé de ses convictions et qui lui apporterait des choses auxquelles il ne pense pas toujours. Donc, à mon sens, Guardiola a encore une petite longueur d'avance, mais
c'est le débat qui
peut-être
tout
que
le temps,
les faits vont me détromper.
Le débat en Angleterre, c'est qu'il manquerait un buteur à 25 buts par saison à Arsenal.
Peut-être.
Et c'est paradoxal, puisque la saison passée, Arsenal a marqué 91 buts. C'est son record dans l'histoire de la Première Ligue. Mais il manque ce tueur dans les matchs importants, comme contre le Bayern dans Ligue des Champions.
À mon avis, voilà, je pense qu'il manque peut-être un joueur qui va mettre des buts d'avant-centre.
Oui.
Qu'ils n'arrivent pas
forcément à
mettre
des beaux buts.
Voilà. Bruno. Un Füllkrug, quoi.
Oui,
il est à West Ham, mais il est à West Ham.
Bruno, une autre équipe qui a toujours été dans les pattes, je dirais, de Manchester City, c'est évidemment Liverpool. Liverpool qui vit une nouvelle ère, commence en tout cas, durera-t-elle. Pardon.
On lui souhaite que ça soit une nouvelle ère, Arne Slot.
Évidemment, oui. Évidemment. Justement, qu'en pensez de Liverpool, de ce nouvel entraîneur qui avait presque été adoubé par Klopp quand même, qui certes voulait partir et tout, mais on sentait qu'il y avait un certain plaisir aussi à lui laisser la place.
Oui, bah Jürgen Klopp, il est malin et puis il était aussi pour son club, donc il a préparé le terrain pour le nouvel entraîneur, pour lui faciliter la tâche.
Il
n'a
pas s'abonné à la planche en tout cas.
Non, bah c'était l'élégance de Jürgen Klopp. Après, moi j'ai forcément des doutes parce qu'on l'a vu, les passages après Ferguson à Manchester United, après Wenger à Arsenal, ça a été extrêmement compliqué. J'ai du mal.
Seront-ils patients à Liverpool?
Ouais, je pense qu'ils seront patients. Après, si Liverpool est 7e, 8e après 20 journées, peut-être qu'ils le seront un peu moins.
Alors eux, ils n'ont pas renouvelé leur effectif. On a toujours Mohamed Salah qui est là
ils
depuis si longtemps.
Personne. Voilà. Ils n'ont recruté personne. Ils voulaient recruter Zubimendi, la sentinelle espagnole qui avait brillé à l'Euro, de la Real Sociedad, je crois. Mais après, ils ont un effectif tellement riche, ils avaient beaucoup recruté sur les dernières saisons, que franchement, son effectif est intéressant. Après, là, ils viennent de jouer chez un promu qu'ils a bien bougé, Ipswich Town. La deuxième période, le talent de Liverpool a fait la différence. J'ai encore des questions. Je pense qu'ils seront sur le podium parce que je pense qu'ils sont un peu au-dessus des autres qui suivent. Mais ça va être une saison intéressante, ouais, Liverpool.
Parlons des autres. Alors, Manchester, il y a City, mais il y a aussi United, bien sûr, qui l'année dernière termine 8e de ce championnat. Et malgré tout, les dirigeants ont fait confiance encore à Ten Hag. Bon, ils l'ont renouvelé pour 2 ans. On ne se fait pas trop d'illusions si vraiment ça n'allait pas. Mais...
Lui non plus.
Est-ce que finalement, ça peut quand même être le moment de Manchester United cette saison?
Il y a toujours eu des points d'interrogation. C'est une équipe qui, depuis le départ de Ferguson, se cherche sans arrêt, sans beaucoup se trouver.
Mais Ten Hag, c'est sa 3e saison, si je ne me trompe pas.
Voilà.
Et il a quand même, lui aussi, des principes.
La première avait été bonne. Hein.
Oui.
Il fait 3e, il gagne la Coupe de la Ligue.
Là, moi, je trouve que certains joueurs nous doivent une revanche. Je pense à Onana, notamment, qui, pour sa première saison, la saison passée, avait été très intermittent, voire médiocre. Là, sur le premier match contre Fulham, on l'a vu meilleur. Il a un peu tenu la baraque quand l'équipe subissait avant qu'elle s'impose en deuxième. Moi, j'ai un doute quand même, parce que c'est un club qui n'est pas vraiment stable, qui n'a pas une politique sportive bien pensée, qui fait un peu des coups sur le marché, sans que ça colle vraiment à ce que veut vraiment.
Et puis qui parfois se débarrasse de joueurs.
Donc, là, c'est ce qu'ils veulent changer. En l'occurrence, avec Ineos et Radcliffe, ouais, c'est justement d'avoir une vraie politique sportive sur
Ineos
plusieurs années.
Ineos et Radcliffe, je les ai vus à l'œuvre de très près. Et j'ai pas du tout confiance.
On va le dire au gym de Nice, oui, n'est-ce pas, hein,
que ça continue
bien.
D'ailleurs. Enfin, ça continue pas puisque cette année il n'achète personne.
Il a mis un peu plus d'argent à Manchester quand même. Hein.
Mm-hmm. Oui, oui, mais les prix sont plus élevés en Angleterre aussi. Donc.
Ça va les pénaliser United parce qu'on est encore dans la transition de l'installation du nouvel actionnaire et par expérience, ce genre de moment, ça fait rater des mercatos, ça fait des incompréhensions entre l'entraîneur et son board. Donc, c'est très compliqué. Déjà, c'est un entraîneur, moi, quand je vois ce que Sancho a fait à Dortmund, et eux, ils se sont privés pendant des mois, je vois que c'est un garçon qui va en finale de Ligue des Champions, qui est dans les petits papiers du Paris Saint-Germain,
oui,
désormais.
Et qui a fait un aller-retour et qui n'a rien perdu de son football et de son talent.
Lui, là, lui, il n'en voulait pas. Donc,
tout comme Cristiano, tout comme d'autres
joueurs.
Oui, mais
Cristiano, hein. C'est pas le même âge. Puis,
non, mais il a
bon,
aussi.
Il y a vraiment des doutes. C'est bizarre qu'ils aient gardé Ten Hag, des entraîneurs. Moi, j'ai découvert Slot à Liverpool, je ne connaissais pas bien. Des entraîneurs, il y en a partout, il y en a tout le temps, on peut en trouver. Donc, je suis un peu surpris qu'ils aient gardé Ten Hag. D'ailleurs, c'est pas logique par rapport à un changement d'actionnariat. En général, on arrive avec une nouvelle ère. Donc, bon, on va voir, mais j'y crois pas trop.
Il y a de nouveau quand même. Bruno, en plus, ouais. Qui vient du Bayern, là, De Ligt, hein, oui. Pour ce qui est la défense, et puis Mazraoui.
Qui a fait un très bon premier match, Mazraoui. Mm-hmm. Très, très bon, poste de latéral droit. De Ligt, grosses interrogations.
Bah oui, ça fait longtemps qu'on
s'interroge. On ne peut pas dire que ça a été une réussite à la Juve ni au Bayern. Et c'est surtout ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est beaucoup d'anciens joueurs qui ont joué sous Ten Hag ou qui viennent du championnat des
ça,
Pays-Bas.
C'est le sentiment que.
Et ça commence à faire grincer des dents parce qu'on a l'impression que c'est que son réseau, que ses anciens joueurs ou ses anciens clubs. Donc, moi, je suis d'accord sur Ten Hag, hein, sur les interrogations. D'ailleurs, les dirigeants avaient consulté plusieurs entraîneurs avant de prolonger Ten Hag, ce qui veut bien dire qu'ils avaient
la confiance
en lui.
La confiance n'est pas au zénith, quoi.
Peut-on rassurer nos auditeurs ? Parce qu'ils ont le blues. Vraiment le blues, nos auditeurs. Chelsea, ce club toujours dirigé par ce milliardaire américain un peu étrange en comportement. Il est très généreux, Todd Boehly. Il a dépensé apparemment, croit-on, 469 millions d'euros. Bon, il a une ardoise quand même dans le club de 292 millions d'euros. Il ne compte pas donc les dépenses, mais il ne compte pas beaucoup les résultats non plus. Mais il ne compte pas encore moins le nombre de joueurs dans son effectif. 43 joueurs pro sous contrat. Comment s'annonce cette saison de Chelsea ? Nos auditeurs sont un peu déjà désespérés par la perspective et par le résultat du premier match. Bon, ils sont tombés sur City, perdent 2-0 contre City. Bon.
Je vais utiliser un mot un peu cavalier, je vais dire bordélique, parce que je trouve que c'est ce qui va bien à Chelsea. On ne comprend pas ce qu'ils veulent faire, en fait. Chaque été, ils recrutent une dizaine de joueurs. Chaque mercato, ils recrutent une dizaine de joueurs.
Ils changent d'entraîneur aussi.
Des joueurs à des postes qu'ils ont déjà, qui ont pourtant brillé. Ils changent d'entraîneur, ils en sont au cinquième entraîneur en 2 ans. Et puis surtout, quand un entraîneur parvient à mettre un peu d'ordre dans le vestiaire et sur le terrain, avec Pochettino les 4-5 derniers mois, il finit 6e quand même la saison passée, ce qui est quand même pas mal. Hein. Mm-hmm. Et il se sépare de lui, d'un commun accord, soi-disant.
Bon, parce qu'ils sont pas sur le même longueur d'onde. Celui qui leur avait fait gagner une Ligue des Champions quand même.
Thomas Tuchel,
oui, c'est encore autre chose, mais oui, on ne sait pas trop où ils veulent en venir, et chaque fois qu'il y a des joueurs qui s'installent un peu dans l'équipe, on leur met un concurrent dans les pattes. Donc je vois pas comment les joueurs peuvent réussir dans ces conditions. Les gardiens, il y a un gardien qui est dans le but, qui fait pas l'unanimité. C'est pas un grand gardien. Cet été, Chelsea avait besoin d'un grand gardien et d'un grand buteur, c'est tout. Ils n'ont pas le grand buteur, ils n'ont pas été le chercher encore, ils n'ont pas le grand gardien. Par contre, ils ont 6 gardiens dans l'effectif.
Non, mais c'est...
Donc, mettez-vous à la place du gardien dans le vestiaire quand il va s'entraîner. S'il fait une bourde, y en a 5 autres qui attendent. Je ne vois pas comment on peut être serein dans ces conditions.
Vous avez vu cette photo qui a été partagée abondamment sur les réseaux sociaux. On voit un embouteillage de personnes habillées en bleu dans un tunnel d'accès, je ne sais pas, une station de métro. Et la légende, les joueurs de Chelsea attendent d'entrer sur le terrain. Bon, c'est... Normalement, si le football était un sport régulé raisonnablement, les effectifs des clubs professionnels seraient plafonnés à un certain nombre de joueurs, peut-être 30 ou 35, et Chelsea ne pourrait pas faire ce qu'ils font en ce moment. Ils ont dépensé déjà plus de 200 millions cet été. C'est 8 fois plus que City et 4 fois plus qu'Arsenal, et je pense que les résultats ne seront pas 8 fois ou 4 fois meilleurs.
Bah oui,
je vous le dis d'avance, je ne prends pas grand risque en le disant.
Dominique.
Il n'y a pas de politique sportive, en fait.
Est-ce que c'est cet obscur, je dirais quand même, propriétaire américain qui vient là, qui vraiment se comporte en propriétaire, qui décide de tout, mais qui peut-être n'y connaît pas assez?
C'est la preuve que argent et compétence, ça ne va pas forcément ensemble. Mm-hmm. Il a beaucoup d'argent, mais il n'y connaît rien, et ça se voit. Parce que même s'ils ont fini sixième, ils enchaînent les fiascos de recrutement, les fiascos de match. Celui-là encore, OK, ils sont tombés contre City, mais c'est le premier match de la saison. C'était triste, j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé Chelsea médiocre.
Sans âme.
Ouais, franchement.
Comme à chaque 2-0, match de la saison dernière.
Je n'ai pas trouvé que c'était un grand City. Mais bon, c'est un premier match. On peut leur laisser éventuellement un peu plus de chance pour voir ce que ça va donner. Mais j'ai bien peur que ça soit... À chaque fois que je vois Chelsea, je m'ennuie. En fait, c'est boring Chelsea permanent. Et je ne comprends pas ce qu'ils font. Je crois que le milliardaire ne comprend pas ce qu'il fait. Il a juste de l'argent, il s'en amuse. C'était une danseuse.
C'est pas boring au sens où ils auraient délibérément choisi une approche hyper défensive.
Ah oui, c'est pas Mourinho.
En se disant, on va jouer à fond la défense et on aura une ou deux flèches devant.
Non, c'est
boring parce que ça part dans tous les sens, que c'est filandreux, que c'est illisible et que, en fait, c'est n'importe quoi.
On va terminer par un petit clin d'œil et une jolie histoire. Sans doute, Bruno, je vous vois déjà sourire parce que vous me voyez venir.
Je le sais.
Voilà. Jamie Vardy, infatigable buteur des Foxes. On se souvient de l'aventure des champions d'Angleterre. C'était en 2016. Et hier, il a aussi été de l'aventure, malheureusement, de la relégation de ce club en Championship. Ils sont de retour en Premier League anglaise. Et hier, ils se sont permis d'égaliser contre Tottenham. C'est Jamie Vardy et il les a chambrés.
Ben oui, parce que Jamie Vardy, il se fait chambrer 38 ans en janvier. Hein. Ah. Il se fait chambrer dans tous les stades et par tous les autres supporters. Et le problème, c'est quand vous chambrez Jamie Vardy, s'il marque, ben il va vous la rendre. Et évidemment, au moment de sortir, de quitter la pelouse, il a montré son badge de champion d'Angleterre. Leicester a un titre et Tottenham, zéro. Alors, c'est dans la période de la Première Ligue, évidemment.
Ouais.
Parce que Tottenham en a gagné dans les années 50-60.
Mm-hmm.
Mais oui, c'est un chambreur, mais c'est surtout un super athlète, en fait. C'est un professionnel incroyable. Et il nous racontait aux téléspectateurs de Sky, qu'il était interrogé comment il restait en forme, en fait. Et bien, il expliquait que chaque jour après un match, il fait une journée complète de récupération. Il a des machines chez lui à oxygène pour récupérer.
C'est Cristiano Ronaldo d'Angleterre.
J'irai pas jusque-là.
Non, c'est plus artisanal.
Et il a un secret, c'est qu'il boit à chaque retour, quand il revient pour la deuxième période sur le terrain, dans le couloir, il boit une boisson énergisante qui est bien connue. Il est très, très connu pour ça. Je ne sais pas si ça l'aide beaucoup, mais en tout cas
psychologiquement, sans doute.
À 37 ans, il est affûté comme jamais.
Il n'a pas eu une trajectoire standard. Il a commencé dans les divisions inférieures.
Et
il n'a découvert le très haut niveau que bien plus tard. Donc, il a
peut-être un peu aussi.
Il a encore un regain d'enthousiasme que la plupart des joueurs lambda de 37 ans n'ont pas, en fait.
Dominique ?
Bah écoutez,
ça force
l'enthousiasme
quand même, Jamie Vardy.
Dans le championnat le plus riche du monde, avec des businessmen, des Ineos, tout ça, ça fait partie des vraies histoires humaines. Ça reste un truc à visage humain.
L'aventure des Foxes, quand même.
Bruno
Constant dans l'oreille, parce qu'à l'époque, il était encore à Londres, mais nous racontait cette histoire qui était fabuleuse.
C'est la plus grande surprise pratiquement de l'histoire du football.
C'était une très belle
épopée. Parce
que Ranieri a une statue là-bas.
Je crois pas. Il a quelque chose, mais je sais pas si c'est une statue.
On continue, les amis. Dans ce championnat, évidemment, nous allons le suivre ensemble. Mais cette compétition a aussi décidé d'innover pour imposer ses propres règles à la machine.
C'est pas touché.
Non,
c'est pas touché.
Dominique, vous avez reconnu quand même qui n'a pas touché.
Non.
C'est Brandao.
Oui,
Brandao,
vous vous souvenez de cette épopée,
bien
de cette histoire. Ouais. Bon, avec le petit accent, bien sûr. La VAR, honnie par des milliers de supporters en Angleterre, ne sera pas supprimée. Un référendum, chose incroyable, avait eu lieu en juin dernier en Angleterre, pour ou contre. Eh bien, le pour a quand même... vaincu. Ceux qui doutent, mais des aménagements, et notamment autour du visionnage de la VAR, ont été faits. Les arbitres anglais se sont interrogés collectivement, et c'est ce qu'explique le responsable de l'arbitrage en Première Ligue, Howard Webb.
Nous savons qu'il existe des zones d'ombre et nous voulons y remédier. Il y a toujours des situations qui divisent l'opinion. Nous avons discuté avec les joueurs avant le début de la saison. Nous leur avons expliqué qu'ils ne pouvaient pas toujours être d'accord avec la décision finale. Si vous vous attendez à ce que la VAR satisfasse systématiquement vos attentes, vous risquez d'être déçu. Il y a des situations où il est impossible pour l'arbitre de prendre la bonne décision. Mais nous avons discuté avec tous les acteurs du foot de possibles améliorations. Ça ne veut pas dire que nous trouverons un résultat satisfaisant. Nous voulons juste essayer de corriger les erreurs flagrantes tout en respectant la décision de l'arbitre de faire appel ou non à la VAR.
Dominique, sur la démarche, c'est quand même génial, non ? Les supporters, les arbitres anglais ont réuni un peu tout le monde. Ils ont parlé avec les supporters, ils ont parlé aussi avec les joueurs et évidemment eux. Et ils essayent de corriger des choses. C'est intéressant quand même, le pays qui a inventé les règles du football.
Ça correspond vraiment à l'idée que je me fais de la Première Ligue, du championnat anglais, de cette... que c'est un spectacle collégial où il y a chacun des membres, il y a pas le diffuseur dans son coin, les équipes, les managers, le public. Il y a vraiment une participation de tout le monde. C'est aussi les supporters qui avaient fait reculer le projet de Super League il y a quelques années. Donc, ils ont une influence majeure quand même. Il y a toujours des chants pour des joueurs qui sont repris plus tard. Oui, c'est du folklore vu de France, mais c'est un folklore qui a une réalité. Et qui a une,
un vrai fond.
Oui, qui a un vrai fond.
Bruno Constant, alors on va changer certaines règles et notamment alors ce délai qui dure parfois beaucoup trop d'aller consulter les images et notamment ils vont être un peu déchargés de ça finalement les arbitres, ça sera que dans un gros doute, il y aura des changements ou des aménagements autour du hors-jeu et autour des mains ou des bras. Est-ce que c'est pas ce qu'on a vu quand même un peu à l'Euro déjà? À l'Euro, on disait beaucoup « Ah oui, mais lui, l'arbitre en Angleterre, c'est pour ça que... » Donc finalement, ça se voyait aussi.
Les règles de l'UEFA ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Première Ligue. La Première Ligue a ses propres règles. Mais en gros, c'est pour gagner du temps, mm-hmm. du temps de jeu, du temps effectif. Et effectivement, le décompte des arrêts de jeu, ça sera seulement à partir de 30 secondes quand il y a une célébration de but. On accorde le fait qu'on peut célébrer pendant 30 secondes. Il y aura plus d'informations, plus de transparence avec sur les écrans des stades. Il y a un compte Twitter qui a été créé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et sur les mains, par exemple, c'était ce qui est plutôt intelligent, c'est qu'il y ait vraiment un sens du jeu, en fait. Qu'en gros, si la main est un peu naturelle, même si elle est décollée du corps, ça paraît logique de pas siffler. Donc, c'est aller dans le bon sens. Mais c'est ce que disait Dominique, c'est qu'en Angleterre, il y a une vraie réflexion sur tout ce qui se passe sur le football. Il y a eu un vote très important cet été où la demande du club de Wolverhampton, la Première Ligue, les 20 clubs ont voté de savoir si on supprimait la VAR ou pas. L'idée n'était pas de la supprimer, d'avoir une vraie réflexion sur son utilisation et ça a amené les arbitres à changer quelques petites règles.
Déjà, Monsieur Taylor à Chelsea City a déjà appliqué le règlement. Le nouveau, voilà, il y a déjà une main. Tout le monde a réclamé un penalty pour c'était Chelsea, je crois.
Mmh. Et c'est pas automatique.
Et voilà, il a dit non.
Patrick,
il n'est pas allé voir les images. Ça a pris le temps de sa réflexion. Ça a duré 5 secondes.
Il pousse le bouchon jusqu'à un point un peu dingue, ces Anglais, parce que maintenant on va demander aux arbitres de confesser. Pour quel club bat leur cœur?
Oui, oui. Mais ça, je trouve que c'est là aussi quelque chose de très positif. Et puis, ça montre que les arbitres ne sont pas coupés de la vie du football, que ce n'est pas une entité abstraite qui décide dans son coin. Et moi, j'aimerais bien aussi savoir pour qui François Le Texier ou Clément Turpin sont en France.
Clément Turpin, il est pour lui.
Ça m'intéresserait de savoir l'équipe que les arbitres français supportent.
Mais ça existait déjà un petit peu, parce qu'officieusement, ils devaient plus ou moins le dire à leur organisme.
Oui, parce
après,
que...
moi, qu'ils l'affirment haut et fort, je ne sais pas.
Qu'ils signent un papier, c'est quand même.
Ouais, je
ne
suis pas sûr de ça, moi.
Je pense que c'est quelque chose de
très positif.
Je pense
que laisser planer le doute, c'était bien aussi, parce que là, on pourrait interpréter plein d'autres décisions par rapport à d'autres matchs. Tu vois, c'est un peu.
Oui, mais ça, on le fait de toute façon.
On le verra à l'épreuve.
Selon la ligue que représente tel ou tel arbitre.
Là, on aura des vraies raisons de le faire.
Ouais.
On s'interrogera si c'est devenu un peu trop subjectif du côté de l'Angleterre, les décisions arbitrales. Allez, Dominique, on y va, on piaffe d'impatience.
Ah.
Le Paris Saint-Germain.
Est-ce que vous êtes prêts?
Ah bonjour, c'est Désiré Doué, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. J'ai 19 ans et très heureux d'être ici.
Et Doué qui va marquer.
Oui,
voilà, c'est...
Jusqu'au bout.
Paris Saint-Germain, c'est le plus grand club de France, un des plus grands clubs du monde.
club qui va réécrire d'une certaine manière sa légende. Il est évidemment champion en titre, triple champion même consécutif, 12 titres ces derniers temps et 10 depuis que les Qatariens ont racheté le club. Mais un club, vous le venez de l'entendre, qui interroge aussi parce que il a recruté ces dernières heures ce jeune Désiré Doué qui a décroché l'argent au JO. On l'a vu dans l'équipe de Thierry Henry. Mais on se demande, Dominique, où sont les stars ? C'est pas où sont les femmes, c'est où sont les stars ?
Eh bien, il n'y en a plus, Annie. Il n'y a plus de stars dimensionnées pour être une forme d'icône ou du football ou d'autres choses, un peu mode, un peu people, comme David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Messi, Neymar, Kylian Mbappé.
Vous en avez vu défiler pourtant.
Sergio Ramos. Ah oui, ça j'ai vu, oui. Mm-hmm. Je suis passé de Clément Chantôme à David Beckham, oui, Je me suis bien accroché ça
à votre siège.
Ah oui, c'était pas pareil. Donc,
qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir du Paris Saint-Germain ? On entend que Désiré Doué, il a 19 ans.
Bien
alors
sûr,
évidemment,
il
vante le Paris Saint-Germain.
Il vient du Benfica Lisbonne à 19 ans. Qu'est-ce qu'il y a comme recrue encore ?
Attendez, je vais vous faire écouter.
Pacho.
Safonov.
Je vous fais écouter le plus jeune qui vient de rentrer dans les rangs.
C'est incroyable. Il faut travailler pour être à ce niveau-là. Et ça change de d'habitude. En U19 ou en U17, ça change, c'est le niveau pro. Maintenant, c'est autre chose, c'est quelque chose de grand. Je rentre dans l'histoire du club, quoi.
Et oui, il rentre dans l'histoire du club parce qu'il a 16 ans. Son premier contrat pro, il s'appelle Ibrahim Baye.
Il a dit titulaire à Wavre, j'étais vendredi. C'est le plus jeune titulaire de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Il a battu Kylian Mbappé.
Il a battu Zaïre Emery, qui avait déjà battu ce record il n'y a pas très longtemps.
C'est vrai.
Donc voilà, c'est le nouveau logiciel du Paris Saint-Germain, impulsé par Luis Campos. Luis Campos, quand Leonardo était le directeur sportif, il appelait les rédactions et il disait « Mais moi, ce que fait Leonardo, je peux le faire. Avoir un chéquier à acheter Messi, Hakimi, Donnarumma, c'est simple. » Non, c'est pas ça le boulot d'un recruteur. C'est d'aller dénicher les nouveaux talents, les pépites, les joueurs qu'on pourra revendre éventuellement, le double. Tout. Et par exemple, si on prend Vitinha, qui est la première recrue de l'ère Campos il y a 2 ans, il l'a acheté 40 et aujourd'hui, il en vaut 60. Et je crois que même Guardiola n'est pas fan. Au moins 60.
Et
voilà, c'est ces joueurs-là.
Alors après, donc le Paris Saint-Germain veut gagner de l'argent désormais.
Je ne sais pas, mais parce que bon, ce serait... pourquoi pas
plus que des titres
Je ne sais pas, mais peut-être que les Neves, les Barcola...
Jean Neves, le
voilà,
le
peut-être
Portugais.
Qu'un jour, ils partiront quand même. Ils ne vont pas forcément faire 10 ans au Paris Saint-Germain. Et Paris pourra récupérer une somme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là. Paris a laissé partir les Aurel Di Maria, les Neymar, tout ça. Bon, Neymar, c'était au championnat d'Arabie Saoudite, donc ils ont récupéré un peu de sous, mais en général, le Paris Saint-Germain se désintéresse complètement de l'argent. Ils amortissent en faisant re-signer. Marco Verratti a re-signé 4-5 fois au Paris Saint-Germain. Il est resté 10
ans. Marquinhos, pareil.
Voilà, Marquinhos, pareil. Mais ils ne font jamais l'argent. Là, ils essaient à la fois d'essayer de recruter des bons joueurs opérationnels tout de suite et des joueurs qui pourront peut-être un jour prendre une autre dimension d'un point de vue marketing. Et voilà. Donc, on va voir. Parfois, il y a des ratés. Ils avaient pris Manuel Ugarte 60 millions d'euros l'année dernière. Ils n'en veulent déjà plus. Mm-hmm. Il paraît qu'ils pourraient aller chez Bruno à Manchester United.
Chez Bruno.
Non, mais donc, je vous laisse.
Je pense aussi que...
Pourtant, il a fait en Copa América. Il était plutôt intéressant dans l'équipe de...
Il avait fait un très bon début de saison, Ugarte. Et puis,
mais on s'en souvient. Puis tout d'un coup...
Il a perdu pied. Ce qui est quand même... ce qu'il faut signaler, c'est qu'on est... Aujourd'hui, on est face à un mercato extrêmement baissier, enfin extrêmement faible. Il y a très peu de mouvements chez les joueurs, les top players. Cet été, il y a eu très peu de mouvements, où que ce soit.
Je trouve que Alvarez, c'était le...
Il y a eu des recrutements de joueurs jeunes et talentueux, type Olysée, type Neves au PSG, mais il n'y a pas eu de recrutement. Les stars n'ont pas bougé. Et par exemple, le PSG qui avait émis l'idée de peut-être essayer d'attirer Osimhen, il ne s'est rien passé là.
Et justement...
Et continueront comme ça sans un vrai avant-centre, surtout si Ramos est blessé? Là, il a question. Il reste 10 jours de mercato.
Énorme question. Et écoutons Luis Enrique, l'entraîneur, parce qu'on est donc dans l'après Mbappé, il y a eu l'après Neymar et l'après Messi, mais là on est vraiment dans une autre dimension, sans Kylian Mbappé, je ne parle même pas du statut de star, je parle juste de qualité de joueur. Et vous allez l'entendre, Luis Enrique, pour lui c'est très excitant.
Para mí como entrenador, en Comme entraîneur, il s'agit d'interpréter les besoins de l'équipe et la manière dont nous allons jouer. Il est évident que nous allons changer les choses par rapport à la saison dernière. C'est vrai qu'avant, à l'approche du but, on cherchait toujours le même joueur grâce à la facilité qu'avait Kylian Mbappé. Maintenant, ça ouvre un éventail de possibilités complètement différents qu'on va exploiter. Je connais parfaitement cette situation parce que je l'ai vécu les mois précédents dans des équipes précédentes. Je l'ai aussi vécu en équipe nationale. Et pour moi, la possibilité de renforcer l'équipe dans cette nouvelle dynamique est très intéressante et très attrayante aussi.
Est-ce que c'est vraiment le profil de Luis Enrique de faire grandir des jeunes au sein du Paris Saint-Germain ? Parce que j'imagine que les objectifs des patrons n'ont pas beaucoup changé. J'imagine qu'il faut être champion de France et qu'en Ligue des Champions, nouvelle formule, on en parlera sur l'antenne, mais il ne faudra non plus pas être ridicule.
Ben moi, choisir entre la politique Neymar et Messi Mbappé et ce qu'ils sont en train de mettre en place, je préfère celle-là, moi. Je préfère ça parce que c'est la notion de collectif qui va prendre le pas. Et la star de l'équipe, quelque part, ça va être l'entraîneur. Et
pour moi, il l'est déjà, depuis la saison dernière.
Oui, mais pour moi, la star de l'équipe devrait toujours être l'entraîneur. C'était l'idée fixe d'Alex Ferguson à United et il a brillé. C'était déjà un peu le cas, effectivement, la saison passée au PSG, mais ça a rarement été le cas au PSG. L'entraîneur était rarement la star au PSG. Mmh. Et la c'était notion de collectif, aussi. Pour moi, c'est ce qui fait briller, c'est ce qui fait gagner des trophées. Il y a un exemple pour moi qui est assez similaire au PSG, on va dire. En 2019, Chelsea est interdit de recrutement. Ils ne peuvent plus recruter, ils sont obligés de s'appuyer sur les jeunes de l'académie. Il y a Rhys James qui arrive, il y a Mason Mount qui arrive, il y a Chalobah, il y a plein de petits jeunes qui arrivent. La saison d'après, ils recrutent très jeunes avec des joueurs comme Kai Havertz par exemple. Deux ans après, ils gagnent la Ligue des Champions. Mm-hmm. Donc la jeunesse, c'est pas un frein pour gagner les trophées majeurs. Il faut qu'il y ait un collectif, quoi. Il faut qu'il y ait un bon entraîneur et un vrai collectif.
Donc Dominique, vous allez gagner la Ligue des Champions dans deux ans.
Moi, je vais faire tout ça, mais il y a un détail, Annie, qui raconte cette politique d'antistar. Il n'y a pas de tireur de penalty désigné pour toute la saison. L'année dernière, c'était Kylian Mbappé. Il y a deux ans, c'était Neymar. Parce qu'il y avait des stars et donc vous les rassurez.
Il y a des stars, il y a des stats.
Oui. Voilà, et mais il faut ça. Oui. Là, et puis il les tire bien aussi. Parce voilà, que
surtout Neymar. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le même qu'il les tirera toute la saison. Hein, mais il va choisir à chaque match. Et comme il change beaucoup de 11, comme il ne veut pas de stars, comme il ne veut pas.
Qui est le leader alors, je ne dirais pas capitaine, mais technique dans cette équipe.
Le leader technique de cette équipe.
Technique, c'est Vitinha.
Oui, c'est Vitinha. Ouais,
qui est le patron. Charismatique, patron sur le terrain.
Le patron, ça peut être Marquinhos, mais c'est un capitaine contesté. Là, il va encore y avoir un nouveau vote. Il va être nouveau désigné capitaine. Bon, les cadres, c'est les Lucas Hernandez. Bon, il est blessé.
Donnarumma.
C'est Hakimi. C'est les plus vieux, c'est Dembélé, parce qu'il a quand même 27 ans déjà, Ousmane. Et qu'il a joué à Barcelone, à Dortmund. Voilà, mais c'est quand même une équipe qui est emmenée par les Vitinha, 24 ans, les Barcola, 21 ans, les Neves, 19 ans, les Doué, 19 ans, Lee, 22 ans, Nuno Mendes, 21 ans.
Seront-ils champions de France, Dominique ?
Cette année, il y a match. Je pense qu'il y aura match avec Monaco et Marseille.
On a l'impression que Marseille a compris le message.
Après, ils ont quand même 800 ou 700 millions d'euros de budget. Je pense quand même que le meilleur gardien de Ligue 1, c'est quand même Donnarumma. Alors peut-être que Mason Greenwood sera peut-être meilleur que...
Le facteur X, oui.
Ouais, mais ils ont quand même devant, entre Ramos, qui va revenir, il est absent que 3 mois, hein. Ramos, Kolo Muani, Dembélé, Barcola, Doué, ils ont quand même moyen de...
Fabien Ruiz aussi est toujours là.
Fabien Ruiz, champion
d'Europe. Qui avait été si bon.
Ils ont un plus gros effectif, ils ont des automatismes, ils ont l'habitude de gagner. L'OM, le problème de l'OM, c'est que
ils sont un cran au-dessus, quand même.
Les exigences de Zerbi sont extrêmement énergivores. Et je pense que ça peut être une mèche courte.
Nous disait Nabil hier.
Sur une saison, non, mais... Sur deux, on verra.
On en reparlera, messieurs ? Oui, il y a toujours match dans Radio Foot, Dominique. Et on en reparlera, messieurs, bien sûr, tout au long de la saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain. Merci, messieurs.
Merci.